Bonjour, Monsieur Laplanty, merci tout d'abord pour cet exposé brillant et pour cet encouragement au travail que nous effectuons pour la plupart dans des écoles. Nous constatons aussi les vertus du métissage raisonnablement approché tel que vous le décrivez. J'avais cependant une question. Par rapport aux cultures tziganes et roms, vous les placez où dans cette description du métissage?
Mais vraiment, j'en sais rien. J'ai pas réponse à tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est d'abord qu'il convient d'être vigilant à la catégorisation. Qui tente à se fixer aujourd'hui sous la désignation Rome. Et c'est à partir du moment où on dit « les », vous voyez, « les Roms », comme si ça formait un groupe homogène, qu'on va être amené à s'engager dans un processus d'essentialisation, c'est-à-dire à chercher à définir une identité et à les considérer comme des étrangers. Mais en ce qui concerne la culture rome elle-même, moi, je ne peux pas vous répondre. Par contre, vous voyez, ce que va provoquer le phénomène, c'est sûr que c'est la méfiance des étrangers. C'est ça. La méfiance des étrangers, et en particulier la méfiance des groupes nomades, par rapport à une valeur, à une normativité qui serait le sédentarisme. Et ce que je peux vous dire par rapport à votre question, c'est que le métissage, ça commence à prendre à partir du moment où nous abandonnons la catégorie d'étrangers et nous expérimentons une expérience qui est celle de la singularité. De la singularité de ce que Freud appelait l'étrangeté. Alors, ça m'intéresse pas trop, en fait.
Si je vous pose cette question, oui, c'est par rapport au Maran et par rapport au processus que vous avez décrit lié au Maran, parce que le savez bien, au Brésil, là aussi, les tziganes ont été dans des positions, au Portugal, ont été dans des positions Maran et de déguisement et d'oscillation.
Mais je n'en sais rien, parce que vous me dites, je n'en sais rien, et à la limite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est la relation, vous voyez, il me semble, c'est la relation qu'on peut avoir avec des populations stigmatisées, exclues, que l'on cherche soit à fixer ou à se débarrasser. Mais la culture marane, la culture rome elle-même, je suis un petit peu approché quand je suis allé en Roumanie, mais pas plus. Donc, oui, je comprends le sens de votre question. De cette marginalité culturelle par rapport à ce que j'ai dit précédemment sur le maranisme. Et sans doute, l'importance qu'a joué, mais alors je ne sais pas s'il faut dire Rome, plutôt Tzigane. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'oscillation des désignations. L'importance qu'a joué la culture tzigane dans l'invention du flamenco. Et alors là, vraiment, oui, sans doute retrouve-t-on le métissage, du métissage. Oui.
Bonjour, je suis enseignante du PE2A dans le second degré. Par ailleurs, j'ai un doctorat de littérature française de la Sorbonne. J'ai travaillé sur les littératures francophones. Je voulais faire une petite parenthèse sur le terme de francophone. Francophone, c'est un terme qui est institutionnel et qui a été créé en 62 par, on va dire, pour aller vite, l'institution française. Voilà, je voulais le préciser au passage. J'ai travaillé sur Katebiassine, sur la réception de l'œuvre de Katebiassine, donc un écrivain engagé algérien de langue française. Écrivain qui disait que la langue française est un butin de guerre Et là, je m'interroge dans ces conditions sur la question du métissage dans le cas de la littérature francophone. Vous avez raison de parler des mondes francophones, parce que la francophonie de Kateb Yacine et la francophonie de Glissant, Confiant, et c'est totalement différente. Et puis on pourrait rajouter un paramètre chronologique aussi, hein, le temps dans l'histoire. Et je voulais donc m'interroger sur... Bon, il y a un paramètre dont vous n'avez pas parlé, c'est la colonisation, donc l'impact de la colonisation dans cette forme de métissage. Et puis je voulais aussi parler du mouvement, le métissage comme mouvement éternel, et puis mouvement vers la métamorphose. C'est une forme de métamorphose aussi, sans doute, hein. Donc là on retrouve Kafka et la métamorphose. Et je voulais aussi juste une petite parenthèse aussi sur la question beurre, qui me semble intéressante pour faire le parallèle avec les auteurs écrivains de langue française. C'est deux choses totalement différentes, puisque là on est dans un mouvement de migration, d'immigration, dans des contextes historiques bien particuliers, et qui entraîne, et ça, bon, je l'ai entendu sur France Culture, qui entraîne des traumatismes, des traces, et Toby Nathan l'a très bien étudié, des traces, la migration entraîne des maladies aussi, et il semblerait que c'est dans le public migrant où il y aurait le plus de nombre de maladies, notamment... de la schizophrénie.
Bon, oui, ça fait beaucoup de choses.
Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une question. Je le sens pas comme une question. Je le sens comme des précisions. La colonisation, elle était implicite dans ce que j'ai dit de la domination, de la déportation des Noirs dans les Amériques. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous sur ces termes mouvement, métamorphose, transmutation, et sur ce que vous avez dit à la fin, la colonisation, le lien entre la colonisation et la psychiatrie et la psychopathologie. Et ben là, il y a un auteur qu'il faut absolument lire, relire, et puis en plus de ça, il est d'ici, il est de Lyon, ben c'est Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc. Je pense que vous l'aviez à l'esprit dans votre... Mais je ne sens pas des questions. Je sens plutôt des compléments, des précisions.
Alors, une question. Vous nous avez présenté le métissage. Le métissage est conflit et source de tension, de souffrance. Mais est-il une ambition? Est-il un épanouissement et tout simplement un but à poursuivre?
C'est, si vous voulez... J'ai pris l'exemple où j'ai dit... Ça a quelque chose à voir avec le bilinguisme, vous voyez, ce processus de l'apparaître, disparaître, non pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. C'est plus riche de parler deux langues que de n'en parler aucune. C'est plus riche de parler trois langues que de parler deux langues. Mais on ne peut pas les parler en même temps. Ou alors il y a deux cas de figure. Il y a le franglais, le spanglish ou le portugnol, comme moi quand je vais dans les pays d'Amérique latine, non Brésil. Mais je suis en train de parler français et l'un d'entre vous va me répondre en espagnol. Et un troisième va le traduire en anglais, etc. On ne parle pas deux langues en même temps, vous voyez. Donc, dans la traduction, elle est faite d'alternance. Elle n'est pas, il n'y a pas d'équivalent. Elle est une transformation. Alors, je ne sais pas. Votre question, pour moi, elle appelle aucune réfutation. Bien entendu, dans ce que j'ai dit, il y a un éloge de ces processus. Mais qui sont plutôt l'exception, hein. Qui sont plutôt l'exception. Je peux prendre peut-être trois exemples. Ça s'est produit trois fois. Ça s'est produit trois fois en Europe, des processus de métissage. Parce que c'est relativement facile de penser ces processus dans la cuisine, dans la musique, dans la peinture, mais dans la politique pratiquement jamais. Enfin, vous voyez, pratiquement jamais. Mais il y a trois fois dans l'histoire de l'Europe où le métissage a pris. Je parle comme ça explicitement. Vous voyez, ça prend ou ça prend pas. Mais vous pouvez pas, vous pouvez pas dire dans votre travail, notamment dans le travail d'éducation qui est le vôtre, voilà, on va imposer un processus de transformation métisse. Ce serait la meilleure manière que ça ne marche pas. Alors il y a trois exemples que je vais prendre. Le premier exemple, c'est l'exemple de la Grèce. Et l'exemple d'Athènes, pourquoi il y a du métissage dans la cité athénienne? Ben, c'est par l'apport de ceux qu'on appelait à l'époque les métèques, qui étaient les étrangers. Vous voyez, l'apport du groupe appelé métèque va profondément transformer la société athénienne. Et puis surtout, et là c'est beaucoup plus précis, c'est l'invention de la tragédie grecque. Dans la tragédie grecque, il y a une tension entre Apollon et Dionysos. Et Dionysos, ça c'est vraiment la tragédie grecque, la tension entre Apollon et Dionysos. Et Dionysos, il n'est pas grec, vous voyez ? Il est asiatique, c'est un étranger. Et c'est ça, l'hétérogénéité qui va transformer. La tendance au même, à l'identique, à l'identité, etc. Bon, donc le premier exemple, Athènes, est la création de la tragédie grecque. Bon, le métissage a pris à une autre époque et ailleurs, c'est en Espagne. C'est dans la création de la civilisation andalouse. À travers des conflits et des luttes, Il y a néanmoins eu des époques où il y a véritablement eu échange et fécondation mutuelle entre l'islam, le christianisme et le judaïsme à l'intérieur de ces écoles qu'on appelle médrassa, vous voyez, où on parlait plusieurs langues, où les textes étaient traduits. Mais alors, vous voyez, c'est comme ça le métissage. C'est une époque, et puis ensuite, il y a reprise en main de l'autorité et de ce qui est monovalent, monolithique. Et bien, le troisième exemple que je voudrais prendre, c'est ce qui s'est passé à Vienne au tournant du siècle. Vienne, dans les années 1900, devient le lieu d'une création intense, devient le foyer d'une transformation artistique, scientifique, philosophique qui n'a pas de précédent. Et on va évoquer des noms en peinture, Egon Schiele, Kokoschka, en musique, Schönberg, Edouard Mahler, en littérature, Stefan Zweig, à Vienne également, Freud, Wittgenstein. Allez, là, il y a vraiment à Vienne, mais je pourrais prendre aussi l'exemple de Budapest. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est un peu rare, qui est un peu rare dans l'histoire des sociétés, cette transformation par la multiplicité, vous voyez, des influences. Bon, ça s'est passé ailleurs et à d'autres époques. Ça s'est passé au Brésil, à São Paulo. Dans ce qu'on appelle le mouvement anthropophagique, qui est à la fois littéraire, musical, pictural, etc. Il y a plusieurs influences qui sont recomposées, qui vont sortir la société des mythologies de l'identitaire. Donc vous voyez, c'est pas la peine de me demander comment dire, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Bien entendu, c'est implicite à travers tout ce que j'ai dit. Je pense que c'est un processus rare, fragile, qui est sans cesse menacé, et qui est toujours à reprendre, parce que nous préférons toujours la fixation dans l'identité que le risque de la multiplicité.
Pensez-vous que la demande institutionnelle peut favoriser le métissage tel que vous l'entendez? Je pense notamment à un rapport qui a été commandé sous chevènement, vous l'avez cité tout à l'heure, à Jacques Berck, dans les années 80, qui s'intitule « Les enfants de l'immigration à l'école de la République ». Est-ce que vous pensez que le politique peut influencer fortement ou puissamment sur le métissage et emmener la société vers une société plus métissée par le biais des acteurs sociaux? Merci.
Je pense que le politique peut faciliter, mais elle ne peut pas provoquer. Ça prend ou ça prend pas. Et ça prend ou ça prend pas à notre insu. Hein? C'est pourquoi il ne peut pas y avoir une politique qui se qualifierait de métisse. Il y a quelque chose qui agit largement à notre insu et qui ne peut pas être totalement programmé, qui ne peut pas être totalement décidé. Mais bien entendu que l'éducation peut y contribuer.
Je voulais vous poser la question. C'est au moment où vous avez évoqué la culture beurre que vous avez dit que, en parlant notamment des enfants qui souvent sont nos élèves, que cette situation qui est la leur, leur permettait peut-être de jouer sur plusieurs registres de la société, sur deux registres. Vous avez beaucoup dit qu'au niveau global, au niveau collectif, le métissage était très, très créateur et très enrichissant. Je voulais savoir si vous pensez la même chose au niveau individuel. Vous avez parlé de tension et de souffrance, mais vous avez à un autre moment utilisé l'adjectif facétieux. Je pense à propos de la double culture brésilienne, si je ne me trompe pas. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure, à l'échelle de l'individu, cette oscillation peut être facétieuse, joyeuse, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, heureuse en quelque sorte.
Oui, bien sûr, mais certainement, hein, vous avez raison, facétieuse, joyeuse, mais aussi parfois douloureuse, parce qu'il y a du conflit. Alors, c'est pas. Ce que vous avez évoqué au début de votre question, c'est pas. Ce qui me semble important, c'est qu'on peut vivre autrement que l'alternative. Arabe ou français, qu'on peut vivre autrement que dans le syncrétisme, arabo-français de manière indifférenciée, ce que j'ai en tête dans ce que j'ai dit, c'est plutôt une rythmique de l'alternance. Une rythmique de l'alternance, vous voyez ? Tantôt, mais pas en même temps. Donc, bien entendu, la double culture est possible. Et évidemment, à travers ce que j'ai dit, il y a toujours la valeur du bilinguisme, du trilinguisme, etc., de ce qui nous décentre par rapport à ce qui est monovalent.